Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec, comme chaque jour jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Quatrième décès en France qui passe la barre des 200 cas. Le président Emmanuel Macron a annulé tous ses déplacements. Il est actuellement, à l'heure où nous parlons, au centre de crise du ministère de la Santé. Voilà ce que dit le chef de l'État.
Dans cette période que nous vivons et que nous allons vivre, parce que nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois, il est indispensable d'avoir la clarté, la résilience, le sang-froid et la détermination pour freiner d'abord l'épidémie, ce que nous sommes en train de faire, puis lutter contre celle-ci.
Voilà les mots du président Emmanuel Macron à l'instant. Il pense aussi aux familles des victimes, dit-il. Catherine Ney, il s'est saisi du sujet comme jamais, Emmanuel Macron. Il se saisit à l'heure actuelle du sujet comme jamais.
Et oui, c'est qu'il ne pouvait pas s'en laver les mains, si j'ose dire.
Oh, Catherine. Voilà.
Non, écoutez, il s'en saisit, bien sûr, parce qu'il faut d'abord rassurer les Français, voir si les équipes dans les hôpitaux vont avoir à la fois le personnel, les masques, tout ce qu'il faut pour accueillir en cas de crise grave. Parce que pour l'instant, moi, je pense qu'il faut rester assez calme. Il y a 200 cas en France. Bon, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, plusieurs départements, il y a des cas dans 4 départements, mais on n'en est qu'au stade 2. Mais quand il dit ça va durer des mois, des semaines, mais je veux dire, je ne sais pas qui le lui dit, parce que les scientifiques sont très réservés. Regardez pour l'épidémie du H1N1, où Roselyne Bachelot avait commandé des tonnes de vaccins
à outrance,
et puis ça a duré, ça s'est vite éteint, et bon, ça, on ne sait pas. Et même, que sait-on aujourd'hui de ce qui se passe en Chine? Est-ce que l'épidémie n'est pas en train de refluer? Vous voyez, donc, finalement, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, la grippe saisonnière a fait plus de morts en France que...
Et on n'en parle pas.
Voilà, et on n'en parle pas.
Charles Villeneuve, il faut tenir l'équilibre, montrer qu'on saisit du sujet sans pour autant paniquer les Français. Ça va être un enjeu d'ailleurs encore là, jour après jour, voire semaine après semaine.
Oui, non mais pour reprendre le mot de Catherine Ney...
Oui, ça vous a fait vraiment sourire.
Il s'en est lavé les mains de la réforme des retraites.
Ah bah oui.
Par rapport au 49-3. Mais par rapport à votre question, il faut répondre d'abord à votre question.
Si vous le voulez bien.
Je crois que, si vous voulez, le président, évidemment, s'empare de cette affaire parce qu'il sait très bien que s'il met le nez à la fenêtre, c'est-à-dire dans la rue, comme il y a pas mal de gens qui le pistent, on l'a vu avec l'algarade, si j'ose dire, du théâtre, oui, et des gens qui le pistent parce que le pays... Il appelle à la France unie. Le pays l'est beaucoup moins, de toute façon. On l'a vu encore cet après-midi, bien que de manière éparse, comme les pluies annoncées par Anissa. Mais sincèrement, je crois qu'il n'a pas le choix. Évidemment, il s'empare de la santé, parce que cette santé rassemble tout le monde et inquiète tout le monde. Et je trouve que sa déclaration est inquiétante, moi.
C'est ça, Gérard, c'est inquiétant, c'est de nature à angoisser un peu plus les Français, cette prise en main, je vais redire l'expression, mais...
Écoutez, c'est inquiétant, oui, d'une certaine manière. Moi, je ne suis pas aussi, je dirais, optimiste que Catherine sur le sujet, parce que selon un certain nombre d'informations...
Non, mais elle est prudente, Catherine.
Oui, oui, elle a raison d'être prudente. Je dis simplement, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'informations concordantes pour dire que le passage au stade 3 est imminent. Ça, on vous disait même que ça pourrait intervenir dès ce soir.
Mais il faut voir ce que ça implique.
Alors,
ça veut dire qu'alors là, tous les départements sont touchés.
C'est ça que ça veut dire.
Non, ça ne veut pas dire tout à fait. Mais peu importe ce que je veux dire. On verra après ce que ça peut impliquer. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore... Je vous le donne comme quelque chose que j'ai recueilli auprès de gens qui sont plutôt bien informés.
Non, mais c'est presque un semi-officiel.
Déjà hier soir, un certain nombre de médecins disaient, pratiquement, on nous dit qu'on est toujours au stade 2, mais par un certain nombre de mesures qui sont prises, on est déjà au stade 2,5. Quoi.
Oui.
Et donc, le passage au stade 3 est imminent, je le maintiens.
Mais l'accélération des cas, de toute façon, te montre qu'on...
Et puis les stocks réclamés par le chef de l'État.
Dans ces conditions, le chef de l'État n'a pas de choix.
Bien sûr.
Il est obligé d'être le commandant en chef ou le commandeur en chef de la bataille contre le coronavirus. Pourquoi il l'est ? D'abord parce qu'il est le président de la République, que c'est un enjeu. Il n'y a pas un Français depuis deux semaines qui parle en gros d'autre chose à table, le midi, le matin, le soir avec les enfants, etc. C'est le sujet dont tout le monde parle.
Mais Gérard, il n'a pas le choix, il suffit que tu ouvres une télé.
C'est ce que je dis. Il n'a donc pas le choix. D'autant plus, il n'a pas le choix qu'il a très mal finalement géré et que ça se termine un petit peu en queue de poisson, même si ce n'est pas terminé, l'histoire des retraites. Donc il n'a pas le choix, donc il monte au créneau, parce qu'il sait que tout raté dans la lutte contre l'épidémie, lui serait impliqué directement.
Évidemment. On continue de s'en parler dans un petit instant, évidemment. On ira sur le 49.3 dans la foulée.
Votre grand journal du soir, il est 18h39 sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Nathalie, ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et toutes vos réactions, évidemment, en direct au 39-21.
Et vous, les grandes voix dans ce studio qui écoutez tout à l'heure Emmanuel Macron, il était au centre de crise du ministère de la Santé, il a annulé tous ses déplacements. On le sait, il dit ce soir, il faut faire bloc, c'est ce que nous devons à notre pays. Quant à cette phase 2, elle va durer des semaines et sans doute des mois. Quant à Charles Villeneuve, c'est ce qu'on disait avec Gérard Carrérou et vous tous, on imagine que finalement le stade 3 est inévitable et à nos portes en quelque sorte.
Oui, et ça implique un certain nombre de décisions politiques, parce que moi je les traduis en politique si vous voulez, notamment le confinement sans doute de petites villes, de villes entières, à l'exemple de l'Italie. Évidemment, la suppression d'un certain nombre d'événements, de spectacles, les calendriers, notamment des matchs de football, des matchs de rugby, si tant est qu'il y a un sport qui conduit au contact obligatoire, aux mêlées, où on s'entremêle tous les corps, comme le rugby, avec deux grands matchs qui arrivent dans le tournoi des Six Nations, notamment la fameuse finale France-Irlande, à la fin de ce mois-ci, du mois de mars. Ce sont des décisions politiques, c'est ce que j'appelle des décisions politiques. Et dès lors, évidemment, si... comme il le dit, comme il le pressent ou comme on le lui a dit, et c'est moi je partage l'étonnement de Catherine tout à l'heure, qui se demandait qui lui avait dit que ça allait durer des mois, puisqu'on dit qu'en général ce type d'épidémie meurt avec les beaux jours, avec le début du printemps.
C'est pas vérifié, la preuve c'est que dans les pays chauds actuellement ça continue à se développer. Mais ce que ça veut dire surtout, et c'est ça qui est là, parce que on est dans une phase où on peut, vous avez vu les sondages, deux Français sur trois, en gros, sont inquiets. Ils ne sont pas paniqués. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de psychose collective encore. Par ici et là, il y a quelques accès d'un peu de panique. Les paniquards, c'est ceux qui vont faire des
réserves de pâtes, de farine, etc. Bon.
Mais c'est quand même mesuré. Donc la résilience à laquelle appelle le chef de l'État, elle existe, cette résilience. La difficulté dans la phase 3, si on y arrive très bientôt, ça va être qu'il va y avoir, quand on va avoir des milliers de gens malades du corona, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous mourir, mais ça veut dire que les hôpitaux ne peuvent pas accueillir des milliers et des dizaines de milliers. Donc il va falloir, ça va être difficile de trier, de garder les cas graves et gravissimes pour les mettre dans les salles, pour les salles de réanimation des hôpitaux. Et ça va être très difficile de renvoyer des milliers de gens qui seront un peu paniqués, eux, parce qu'ils seront malades, de les renvoyer à la maison. Et c'est ça qui va être... Ça va se traduire là par, effectivement, une grosse difficulté pour notre appareil de santé qui, jusqu'à présent, s'est très, très bien comporté, a très, très bien réagi. On va voir s'il est capable
d'apprendre. Oui, mais surtout, si on va avoir les restrictions de déplacement, confinement, fermeture d'établissements publics...
Surtout s'il a ce qu'il faut comme matériel.
Ouais. Moi, et comme personnel, on voit déjà à l'hôpital de Creil le confinement de plusieurs... Être soignant. Mais oui,
bien sûr. Enfin, juste attendez, parce qu'il y a quand même un enjeu, c'est le 15 mars, premier tour des municipales.
Ah bah
on s'en parle.
Si vous voulez qu'on en parle,
on peut s'en parler.
Je vous dirai carrément ce que je pense. Je pense que dans la phase, si on arrive à la phase 3, comme je le pense, et comme beaucoup de gens le pensent dans les cercles qui savent, il sera impossible de tenir des élections municipales si on est dans la phase 3.
Eh bien, le sujet a été évoqué samedi
C'était pas samedi,
c'est vrai que ça a été évoqué en pensant que personne n'imaginait qu'évidemment les élections municipales seraient reportées, parce que ça veut dire, si les élections sont reportées, c'est qu'il n'y aura plus d'avions, plus de trains, on arrête tout. Donc ce qui était prévu éventuellement, c'est que certaines villes qui sont particulièrement fragilisées par le virus pourraient, elles, reporter l'élection. Mmh. Mais pas toutes, pas une décision générale.
Du cas par cas.
Du cas par cas. Tout est en train d'évoluer.
En fait, tout évolue heure
par
heure.
Écoutez, regardez, on est passé, en gros, ça a doublé en 2 jours et demi.
Exactement.
Le nombre. Là, on est à 204. On peut être à 400 dans 2 jours et on peut être à plus de 1000 à la fin du week-end. Donc, ne nous donnons pas. Soyons optimistes, si j'ose dire, mais ne soyons pas naïfs.
Il y a eu 40 000 personnes qui ont eu la grippe cet hiver.
Un mot, Charles ?
Oui, cela étant, parlant de l'embouteillage qu'évoquait de toute façon l'accès à l'hôpital, l'hospitalisation. Moi, je crois que les gens peuvent très bien comprendre que c'est de la même, si vous voulez, de la même eau que la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, tout le monde n'est pas hospitalisé. Et pourtant, Dieu sait si elle contamine et elle tue. Elle tue pas loin de 8000 personnes par an.
Sauf qu'un président n'annule pas tous ses déplacements de son agenda pour une grippe. Et donc, c'est ce qui fait aussi...
Pour autant, on n'annonce pas tous les jours ses morts. Et pour autant, surtout, les 3/4 des gens, 95% ne sont pas hospitalisés. C'est une grippe comme une autre, dont on n'a pas déterminé le virus, dont on ne connaît pas le vaccin préventif, c'est vrai. C'est ce qui est un peu angoisse, sans doute, les gens. Mais je ne crois pas pour autant, si vous voulez, que tout le monde va paniquer par rapport à ça.
C'est là-dessus
que je commençais par vous poser la question de la ligne de crête du président Emmanuel Macron, à savoir ne pas angoisser, ne pas paniquer les Français, tout en étant extrêmement précautionneux et sur le dossier à 200%. C'est toute la limite de l'exercice. On va s'en reparler dans un instant et même aller sur le 49.3, si vous le voulez bien, parce que, évidemment, ça se passe à l'Assemblée.
Mais sur la suppression, pardon, Nathalie, sur la suppression des municipales, il faut voir ce que ça implique.
Ah bah, bien sûr.
Les listes sont constituées,
bien sûr.
Et notamment sur le plan, si vous voulez, de l'argent, du financement.
C'est pour ça que Édouard Philippe et Emmanuel Macron...
le financement de la campagne dès lors
que vous l'arrêtez
en plein cours.
Voilà, Premier ministre et Président ont déjeuné aujourd'hui et pour l'instant, pas question de reporter le scrutin municipal des 15 et 22 mars. A tout de suite les grandes voix.
Vous écoutez Nathalie Lévy, il est 18h48 sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou et toutes vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1 ou au 39-21.
La réforme des retraites sera très probablement adoptée ce soir en première lecture à l'Assemblée, adoptée sans vote. C'est l'application de l'article 49.3 avec quand même 2 motions de censure déposées par l'opposition cet après-midi. Elles ont été rejetées ce soir. Cela ne fait quasiment aucun suspense. Comment on analyse ce recours au 49.3? Messieurs, dames, Catherine Ney.
Bien, le 49.3, moi je pense qu'il était inévitable et le président Ferrand l'avait demandé tout de suite parce qu'il a vu qu'il n'y avait
Richard
Ferrand avait bien vu que, je veux dire, ça devenait bouffon, quoi, les rapports, et puis entre députés, les invectives, et puis surtout cette façon de ralentir la marche de l'étude. Il a fallu 150 heures pour faire avancer 6 articles sur les 65, donc il savait que c'était inévitable. Mais il y avait une vraie discussion, c'était savoir si on attendait la veille des municipales, s'il ne fallait pas fatiguer les opposants, parce qu'ils sont moins nombreux que les 299 députés du En Marche. Et puis, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a tranché.
Qui a tranché dans le vif ce week-end, un peu en catimini alors quand même.
En catimini, ben quoi, il n'allait pas donner des coups de trompette pour dire je vais...
Oui,
voilà, ça s'est fait comme ça.
Quand même, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, alors qu'on parle du coronavirus...
Mais c'est comme les évaluations du front, on ne pouvait pas les annoncer.
Catherine, on s'attendait, effectivement, depuis plusieurs semaines,
on
s'attendait. Mais une chose est de s'y attendre et de dire
mais
comme
et
tu
franchement,
as raison.
Franchement, les opposants faisaient tout pour.
Oui, mais faire, franchement, moi je dirais toujours le discours de la méthode. Faire, effectivement, annoncer dans tous les médias qu'il y aurait un conseil des ministres extraordinaire consacré, effectivement, à la lutte contre le coronavirus. Et profiter de ce conseil des ministres, c'est un petit coup tordu qui, franchement, n'est pas à mettre à l'honneur de ceux qui l'ont lancé. Je trouve qu'il pouvait parfaitement, le Premier ministre ou le Président de la République, dire « nous allons réunir effectivement le gouvernement, parce qu'il faut le réunir pour pouvoir accepter qu'il soit informé et qu'il puisse décider du 49.3 ». Et ça aurait été beaucoup mieux. Je trouve que c'est un petit coup tordu.
Ouais.
Et franchement, on ne s'honore pas à faire des petits coups comme ça.
Oui, mais finalement, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il y a eu le pourrissement, l'obstruction d'un côté, le coup bas de l'autre.
Oui, mais alors dans ce cas-là, vous renvoyez dans la cour de récréation.
On en est un peu là, non ?
Oui, mais à ce moment-là, d'abord, premièrement, c'est le président de la République lui-même qui finalement aurait pu se donner un peu plus de temps ne serait-ce que pour donner l'apparence qui continuait, le débat démocratique concernant les plus grands nombres et les représentants de tous les partis. Mais là où il met, si vous voulez, en porte-à-faux, notamment le seul, enfin les deux seuls, pas, je ne pense pas au patronat, mais je pense à la CFDT, mmh. Et Laurent Berger est en porte-à-faux, c'est qu'il devient le dernier arrangeur modéré pour trouver une solution, ce qui va ne pas lui faciliter la tâche par rapport aux autres syndicats et surtout par rapport à sa base. Et je trouve que là, justement, compte tenu du fait qu'il a quelqu'un avec lequel il peut trouver un compromis, eh bien, il le met mal à l'aise, en tout cas. Il lui sabote un tout petit peu, si vous voulez, les efforts que Laurent Berger a pu déployer.
Oui, Catherine Ney. Ah, bon.
On n'est pas d'accord. Je sens qu'on n'est pas d'accord là-dessus.
Laurent Berger, il soutient. Non, mais il n'y avait aucune raison que le président fasse
le ménage,
parce que c'est vrai qu'il lui-même a des exigences quand même. C'est quelqu'un qui dit, moi, il y a une phrase que personnellement, je n'ai pas accepté de sa part, c'est de dire qu'il y avait un intrus dans la discussion, c'était l'équilibre budgétaire. Bon, ça, c'est évident que le Premier ministre lui a dit, écoutez, là, on ne peut pas, pour des raisons de justice sociale, s'engager sans savoir où on va. Ça, c'est,
oui, ça,
c'est sûr.
C'est autre chose.
Donc, alors, c'est autre chose. Mais donc, il avait des exigences qui finissaient par... Par embêter tout le monde aussi, Laurent Berger.
Bon, c'est vrai, peut-être. Mais Catherine, le président de la République n'avait pas besoin, si vous voulez, d'organiser toute cette comédie, en quelque sorte, autour du coronavirus le samedi.
Le samedi pour en passer en loose day.
Voilà. Je trouve que le mot est bien choisi. Ensuite, à l'arrivée, faire apparaître, ça montre la brutalité du président et la raideur, en quelque sorte, du Premier ministre, qui nous l'a montré déjà avec la taxe carbone. Rappelle-toi, les 80 km/h, etc. Et je trouve que l'image d'ensemble du tandem, finalement, ne gagne pas, si tu veux, en sérénité.
Et du coup, Gérard, en 10 secondes, ça va être forcément un élément de la campagne électorale dans la dernière ligne droite.
C'est ce que je voulais effectivement dire, et je conclurai là-dessus. Hein. Tout à fait. Bien évidemment, on dira, bon, ça y est, c'est voté. Bon, maintenant, ça va traîner
ça
au Sénat.
C'est
voté à l'Assemblée en première lecture, ça va traîner au Sénat. Mais il en restera quelque chose. La gestion... Du début, du A à Z, la gestion de cette affaire, de cette glorieuse réforme des retraites, aura été quand même...
Mais moi, je crois qu'il en restera, que c'était une réforme ambitieuse et sûrement vouloir faire ce que les autres n'avaient pas fait et qui se révèle être mal ficelée, bancale, lacunaire, irréparable, comme dit le président Retailleau. Et voilà, et donc c'est surtout ça que les Français retiendront.
Oui.
Voilà, merci beaucoup les grandes voix, ça c'était pour conclure. Merci à vous, à demain ici même.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec dans un instant Nathalie Lévy.
Le journal de Sébastien Krebs, Emmanuel Macron au centre de crise du ministère de la Santé. On entendra le président.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h.